Bonjour à ceux que j'ai pas encore salués ce matin. Alors, ce matin, on va continuer notre chemin dans l'épître de Pierre, en 1 Pierre, au chapitre 2. Le début de ce livre nous a rappelé l'espérance vivante du salut. On l'a vu avec différents messages que Matthieu, Josué nous ont donnés. Nous étions dans la partie de l'épître de Pierre qui rappelait aux chrétiens auxquels il écrivait quelques principes de la vie chrétienne, dont l'espérance, la sainteté, le culte à notre Dieu, on vient d'en parler, l'adoration, l'amour, mais aussi la croissance en se nourrissant de sa parole. Nous avions vu la dernière fois avec Josué l'importance aussi accordée à la place de l'Église, l'Église locale, à la place de chacun dans l'Église. Pierre aborde maintenant, après ces rappels importants, nécessaires, le cœur du sujet de l'épître, la vie des chrétiens dans un monde hostile à Dieu. Et dans le premier de ces passages, dans 1 Pierre 2, versets 11 et 12, Pierre rappelle notre condition de résident temporaire, d'étranger, d'hôte de passage dans ce monde. Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi, je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient, en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Ce texte, nous l'avions déjà étudié ensemble lors du culte sur l'association Le Sel. Nous n'allons donc pas le reprendre, mais simplement les quelques conclusions que nous avons retirées. Nous devons veiller à ne pas trop nous attacher à ce monde, car cela nous éloigne de notre marche vers le Seigneur. Nous sommes temporairement de passage ici. Nous devions avoir une bonne conduite au milieu des païens, sur l'exemple de Christ, afin que les gens du monde soient touchés par nos bonnes actions et voient en nous un témoignage de l'amour du Christ pour eux. Et on arrive à notre texte d'aujourd'hui. 1 Pierre 2, 13 à 25. Pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à vos semblables, qui sont des créatures de Dieu, au roi qui détient le pouvoir suprême, comme à ses gouverneurs chargés de punir les malfaiteurs et d'approuver les gens honnêtes. Car voici ce que Dieu veut, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les insensés et les ignorants. Vous agirez ainsi en homme libre, sans faire pour autant de votre liberté un voile pour couvrir une mauvaise conduite. Car vous êtes des serviteurs de Dieu. Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit. Aimez vos frères en la foi, révérez Dieu, respectez le roi. Serviteurs, soumettez-vous à vos maîtres avec tout le respect qui lui est dû, non seulement s'il est bon et bienveillant, mais aussi s'il est dur. En effet, c'est un privilège que de supporter des souffrances imméritées par motif de conscience envers Dieu. Quelle gloire y a-t-il en effet à endurer un châtiment pour avoir commis une faute? Mais si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est là un privilège devant Dieu. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché, ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ses blessures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Le texte d'aujourd'hui peut être divisé en deux grandes parties, vous l'avez remarqué. La soumission aux autorités, d'une part, la soumission des esclaves, des serviteurs à leur maître. La soumission aux autorités. Cette première partie aborde le cas des chrétiens vivant dans un monde pas toujours facile, dans leur rapport avec les autorités, les institutions en place. C'était le cas à l'époque, c'est le cas aujourd'hui. Ce que j'aime par contre, pour faire une parenthèse, beaucoup dans ce passage, c'est que Pierre ne place pas cette partie comme un simple conseil ou comme une simple manière de vivre. Quels sont les quatre premiers mots de ce texte? Pour l'amour du Seigneur, etc. Voilà pourquoi tout ce qui suit n'a pas besoin de grandes explications, n'a pas besoin de longs discours, de longs débats sur les situations différentes, n'a pas besoin de débattre sur les circonstances différentes par rapport à aujourd'hui. Et je peux pas, et je veux pas, intentionnellement, ce matin rentrer dans les détails, mais simplement relever ce que nous rappelle Pierre dans ses lignes et mettre en évidence ce que nous devons faire parce que nous sommes chrétiens pour ce que Christ a fait pour nous, pour l'amour du Seigneur. Oui, ces quatre mots devraient tout naturellement nous pousser à faire ce que Pierre nous rappelle ici. Mais bien plus, ces quatre mots devraient être comme des guides sur notre chemin dans la foi, sur notre chemin vers la ressemblance à notre Sauveur, notre Seigneur, notre Maître, Jésus. Si à chaque fois que je fais quelque chose, ou plutôt, si avant chaque chose que j'envisage de faire dans ma vie, petite ou grande, je commence par dire « pour l'amour du Seigneur », eh bien alors l'objectif sera atteint. Je rajouterai pas beaucoup plus que ça. Ces mots me font penser à un livre relativement ancien que certains d'entre vous doivent connaître et que je cite d'ailleurs souvent lors de mes préparations au baptême. Ce qui est super dans ce livre, c'est le titre. Alors le livre aussi, évidemment. Mais l'auteur a vraiment bien, a vu juste. Le titre en soi est déjà comme un petit message pour chacun. Ce livre, c'est « Que ferait Jésus à ma place ?» Vous l'avez tous lu, hein ? Et le pasteur dont il est question dans ce livre a vraiment été complètement bouleversé dans sa vie de pasteur, de chrétien, et son assemblée également, lorsqu'il a commencé à envisager tout ce qu'il faisait, petite ou grande chose, en commençant par se poser cette question « Que ferait Jésus à ma place ?» Et nos quatre mots de ce matin constituent comme le début de la réponse à cette question. « Que ferait Jésus à ma place ?»« Pour l'amour du Seigneur, fais ceci. » Et je vous propose un exercice, un défi pour la semaine à venir, ou plus, j'espère. Et moi, je me l'impose à moi-même, aussi souvent que possible, parce que je suis oublieux, depuis que j'ai lu ce livre. Et je dois avouer que ça m'a souvent aidé dans les choix, les décisions, les priorités dans ma vie. Que nous puissions, cette semaine et ensuite, commencer nos journées, nos réflexions, nos décisions par cette question « Que ferait Jésus à ma place ?» Et commencer la réponse à cette question par « Pour l'amour de Jésus, pour l'amour du Seigneur, je vais faire ci, je vais faire ça. » Et souvent le Saint-Esprit nous révèle la suite, nous révèle la réponse. Souvent nous savons au fond de nous ce qu'il est bon de faire, mais est-ce qu'on le fait toujours? Alors faisons-le. Revenons à notre texte et voyons à quoi Pierre veut nous rendre attentifs par ces quatre mots. Il aborde le sujet de la soumission aux autorités en place. Que dit-il ? Pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à vos semblables, qui sont des créatures de Dieu, au roi qui détient le pouvoir suprême, comme à ses gouverneurs, chargés de punir les malfaiteurs et d'approuver les gens honnêtes. C'est clair ? Nous devons nous soumettre aux autorités, aux institutions en place. Et il précise même que nous devons le faire pour ce qui est de la justice aussi. Faire confiance à la justice qui est mise en place. Pas par crainte du gendarme, mais pour l'amour du Seigneur. Par obéissance. Pourquoi ? Car en se soumettant, en pratiquant le bien, en aimant plus qu'en se révoltant, en cherchant la paix plus que le conflit, vous réduirez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les insensés et les ignorants. En parlant des insensés et des ignorants, Pierre parle des non-chrétiens qui ne comprennent pas encore cet amour du Christ pour eux. À l'époque, les premiers chrétiens étaient soumis à des calomnies qui les considéraient comme des ennemis de l'État. Ce n'est peut-être plus aussi marqué, mais peut-être un peu plus subtil actuellement. Mais nous ne sommes pas toujours aimés, bien vus non plus. On essaye de plus en plus dans notre société de réduire l'impact du spirituel, de la religion entre guillemets, de manière générale, sous le couvert de la laïcité. Et si on ne rentre pas dans le cadre établi, on peut être mal vu. Nous avons dû, par exemple, changer nos statuts de l'association culturelle de l'Église, car ils mettaient trop en avant l'aspect spirituel de nos activités, ce qui est considéré comme un facteur limitant pour des personnes qui voudraient participer à nos activités. Patrice Domingue, vous connaissez au marché de la ville, ne peut plus s'éloigner de son stand, ne peut plus aller vers les personnes, il ne peut plus distribuer des tracts librement, aborder les gens, il ne doit que tenir son stand comme n'importe quel marchand. Voilà quelques exemples de tout concrets autour de nous, où nous aurions pu dire, ben non, on renonce pas à nos statuts, au risque d'amende, même d'être obligé de fermer notre association. Mais cela n'aurait pas été bon, au vu de ce que Pierre nous rappelle ici. Dans toutes ces choses, soumettez-vous. Soyez des artisans de paix. Obéissez, afin qu'on ne puisse pas dire du mal de vous. Il en va du témoignage que nous rendons au final. Même si nous pensons être dans nos droits, cela sera plus préjudiciable à la fin que de se soumettre, d'obéir, afin d'être des témoins de la paix et de l'amour du Christ. Cette soumission dont parle Pierre ici est une soumission volontaire. Et j'aime cette idée de volontaire, car on enlève l'aspect négatif de la soumission. On enlève l'aspect contrainte pour laisser justement place à une grande liberté, la liberté de se soumettre. Dans le dictionnaire, si vous cherchez dans le petit Robert, vous trouverez au verbe soumettre comme première définition mettre dans un état de dépendance, ramener à l'obéissance, comme synonyme asservir, dompter. C'est fort. Qu'est-ce que c'est négatif? La soumission est vue comme quelque chose de mal, comme quelque chose d'imposé. Mais dans notre cas, ce n'est pas cette soumission dont il s'agit. Il s'agit de se soumettre volontairement, librement. Le petit Robert, si vous continuez la définition du verbe, à la 5e place des définitions, vous trouverez, ce qui montre bien que c'est vraiment pas la manière la plus courante de voir la soumission, obéir, se conformer avec l'intention de se soumettre, se plier. Voilà l'idée d'intention, de choix libre à la soumission. C'est une liberté que nous avons et que nous devons prendre, se soumettre volontairement afin d'être des exemples. Et Pierre rajoute ici par contre un panneau attention, le grand panneau triangulaire rouge, dans cette liberté, en précisant au verset 16, « Vous agirez ainsi en homme libre, sans faire pour autant de votre liberté un voile pour couvrir une mauvaise conduite, car vous êtes des serviteurs de Dieu. » Que cette liberté que nous avons ne doit pas nous pousser à la mauvaise conduite. Car le péché n'est pas permis. C'est pas parce que nous avons la liberté que tout est permis. Et Paul le précisera aussi en Corinthiens. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Il utilise le terme asservir, la définition de la soumission dans le sens négatif, là. Celle où on est contraint, forcé, finalement, sans liberté. Il rappelle que la liberté que nous avons acquise par Christ en tant qu'enfant de Dieu ne doit pas nous pousser à pécher ou à faire pécher d'autres. Pierre termine cette partie en rappelant que derrière tout ceci, cette soumission volontaire, c'est qui que nous servons en premier? Dieu. Donc veillons, car au-dessus de toute autorité mise en place, nous révérons en premier lieu toujours Dieu. Verset 17. Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit. Aimez vos frères, révérez Dieu, respectez le roi. La deuxième partie nous parle de la soumission des esclaves à leur maître. La traduction littérale du mot traduit par esclave dans certaines traductions bibliques serait plutôt employé de maison. Et là encore, Pierre invite à la soumission volontaire. Et cela même si le maître est dur, même si le maître est ingrat. Injuste. Pour nous, plus de maîtres, forcément, ni d'esclaves, mais pour la plupart d'entre nous, nous sommes des employés, employés d'un patron, sous l'autorité du patron même ou d'un supérieur. Pas de gloire particulière à accepter d'être repris si on a commis une faute. Si j'ai commis une faute, c'est normal que je sois repris. Bien que, de plus en plus dans notre monde, et même les chrétiens, n'acceptent pas toujours d'être repris quand ils ont commis une erreur, une faute. Est-ce que je suis prêt à reconnaître, à assumer les conséquences de mes erreurs? Là aussi, il est tellement plus facile, par un petit mensonge, un mauvais témoignage, d'échapper au châtiment. Veillons donc tout particulièrement à notre honnêteté dans notre travail, à reconnaître nos erreurs et à en accepter le châtiment. Mais Pierre va encore plus loin, car comme rappelé plus haut, certains maîtres, certains patrons, peuvent être durs, injustes, et nous faire souffrir injustement. Comment réagissons-nous? Continuons à faire le bien, ne cherchant pas à nous défendre, à riposter, à nous plaindre, à mentir, à pécher, tout simplement. En cela, Et c'est là aussi toute la richesse de la parole, c'est que nous avons un modèle ultime, parfait, qui a tout enduré, sans jamais pécher, sans mentir, sans riposter, sans menacer, mais en priant et en se remettant entre les mains de Dieu, son Père. Là se trouve pour nous un véritable combat, car il n'est pas du tout naturel pour nous de rester à notre place, obéissant, à vouloir la paix, à ne pas nous plaindre ou répondre à une attaque. Mais là encore, tout comme vis-à-vis des autorités, un enjeu énorme, c'est notre témoignage, l'image que nous renvoyons de notre Seigneur, sa paix, son amour pour tous, dans le but qu'il soit touché par notre manière d'agir, même dans les circonstances difficiles, opposées. Qu'aurait fait Jésus à ma place ? Pierre termine cette partie en rappelant d'où nous venons, quelle était notre condition et le prix qui a été payé par Jésus-Christ pour que nous puissions revenir à notre berger. Si nous pensons que notre situation est trop dure, difficile, avec trop de souffrance, qu'il y a des choses pas justes, rappelons-nous de celles que le Christ a pu endurer pour nous sauver, pour me sauver. Là aussi, ce simple rappel de notre condition d'avant, de brebis perdues, et de notre situation en Christ, notre berger, devrait nous faire oublier toute envie de révolte, de plainte, de combat, de lutte. Nous aussi, nous étions comme eux, avant, pécheurs. Nous ne sommes pas pires, pas meilleurs. Nous sommes graciés par Christ, par le même sang qui a coulé sur la croix, par le même amour qu'il a envers tous les hommes. Cela devrait au contraire nous pousser à être des modèles de cet amour, afin qu'eux aussi soient un jour touchés et gagnés par Christ. Soyons donc dans la situation où Dieu m'a placé, qu'elle soit agréable ou plus difficile. Soyons confiants en Dieu. Ne cherchons pas à faire valoir ce qui semble être mes droits, en nous révoltant, en se plaignant, en répondant aux attaques. Mais faisons-lui confiance en nous soumettant volontairement aux autorités d'une part, aux supérieurs qui sont au-dessus de moi, mais au-dessus desquels se trouve qui ? Dieu. Car comment un Seigneur, prêt à mourir pour moi, ne veillerait-il pas sur moi, dans n'importe quelle circonstance ? Et je conclurai. Trois choses. Qu'aurait fait Jésus à ma place ? Pour l'amour du Seigneur, n'oubliez pas ce petit défi. Deuxième chose, faisons le choix libre d'une soumission volontaire à nos autorités, en étant des artisans de paix, en nous rappelant qu'en obéissant, c'est Dieu que nous servons. Troisième chose, soumettons-nous à nos supérieurs, faisant le bien, quelles que soient les circonstances, en pensant à ce qu'a enduré Christ pour nous sauver du péché, et en étant donc ses témoins pour les gens autour de nous. Amen.